Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Grosse histoire là, qui éclabousse encore l'Église catholique québécoise. On le sait, l'Église, ici et ailleurs dans le monde, a dû bien souvent ces dernières décennies là, dédommager des victimes d'abus sexuels au terme de procès, d'actions collectives qui ont été déposées par des victimes. Au Québec, pour parler juste d'un cas, là, pour vous donner un exemple, les clercs de Saint-Viateur, qui administraient notamment le collège Bourget à Rigaud, ben ont accepté de verser en janvier 28 millions de dollars à 375 victimes d'abus sexuels. C'était dans le cadre d'une action collective. Une autre de ces actions collectives vient d'être déposée contre le diocèse de Québec. On allègue que 80 membres du diocèse, des prêtres, des employés, depuis 1940, auraient commis toute une panoplie d'agressions et d'inconduites sexuelles contre des gens. Et on va parler dans un instant avec l'avocat des requérants, Maître Alain Arsenault. Mais juste avant, la journaliste Sylvie Fournier de l'émission Enquête de Radio-Canada est avec nous parce qu'elle a interviewé au printemps une des plaignantes, une femme qui allègue que le cardinal Marc Ouellette, lui-même un des hauts gradés de l'Église catholique, désormais basé au Vatican, a eu des gestes déplacés à son égard. C'était à la fin des années 2000. Je rappelle que Marc Ouellette a été évêque de Québec. Sylvie Fournier, bonjour.
Bonjour.
La plaignante est citée dans l'action collective là, sous l'initiale F. Vous l'aviez interviewée il y a quelque temps. Qui est-elle et qu'est-ce qu'elle allègue?
En fait, oui, on l'a rencontrée au printemps. Elle nous avait confié sa version des faits dans le cadre d'une de nos enquêtes. Elle était à l'époque une toute jeune agente de pastorale stagiaire, une des plus jeunes d'ailleurs du diocèse. Et ce qu'elle allègue essentiellement, ce sont des attouchements de nature sexuelle dans un contexte d'abus de pouvoir, étant donné que dans les fonctions qu'elle occupait, Marc Ouellette, qui était l'archevêque, et qui était déjà cardinal aussi à l'époque. Donc, l'archevêque avait le fin mot sur son embauche ultimement.
OK. Cette jeune femme-là allègue que Marc Ouellette l'a embrassée. J'ai lu le texte là, sur le site de Radio-Canada. Oui. Est-ce qu'on parle d'embrassade là, chaste sur les joues ou sur la bouche?
En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a eu différents... Il y a eu plusieurs incidents, si vous voulez, oui, au cours d'événements qui étaient parfois organisés par une paroisse ou par le diocèse. Donc, on parle d'événements publics. Ils n'étaient pas seuls, confinés en tête à tête, là. Mais ça pouvait être à l'écart dans une pièce. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il avait, il allait souvent vers elle, au point où, vous l'avez sans doute lu, elle s'est mise à l'éviter éventuellement. Mais bref, il la serrait contre lui, pouvait arriver par derrière sans prévenir pour masser très fermement ses épaules, caresser son dos jusqu'à la frontière des fesses, l'embrasser sur la joue, mais toujours avec une très grande familiarité, disons, des gestes qui n'étaient pas souhaités, qui n'étaient pas consentis et qu'elle considérait, étant donné sa fonction à elle et l'autorité qu'elle exerçait sur elle, extrêmement inconfortable et en fait carrément inapproprié.
OK, cette jeune femme-là, Sylvie Fournier, là, dans le cadre de votre enquête journalistique, elle a, vous avez compris là, qu'elle a déposé une plainte. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette plainte-là?
Alors, elle a mis du temps avant de se tourner vers le comité conseil sur les abus sexuels du diocèse de Québec, c'est comme ça que ça s'appelle. Mm-hmm. Elle a mis un certain temps parce qu'elle a vécu d'autres événements après les années 2010. En fait, elle a raconté tout ce qui lui est arrivé à partir des incidents qui impliquaient Marc Ouellette à l'époque, mais sans nommer les deux prêtres. Elle a simplement raconté les faits, dit-elle, au comité, et le comité lui serait revenu pour dire « Oui, il s'agit bel et bien d'une conduite sexuelle », et c'est après coup qu'ils auraient su le nom des deux membres du clergé impliqués dans cette affaire-là. À la suite de ça, on lui a demandé d'écrire directement au pape François. Alors, elle a écrit une lettre au pape dans laquelle elle relate tout ça et a reçu après comme consigne que à Rome, sa lettre avait été transmise au père Jacques Servet, qui était un théologien, pour essayer de voir clair dans tout ça. Et c'est un homme avec qui elle a eu une rencontre une fois par visioconférence. Et rien depuis. Elle n'a jamais eu de nouvelles, ça remonte à plus d'un an. Elle n'a toujours pas de nouvelles de ses conclusions sur ce qui s'est passé et des faits qu'elle allègue.
OK, Sylvie Fournier, pour l'émission Enquête, vous aviez interviewé cette jeune femme-là, on l'a dit plus tôt. Radio-Canada n'avait pas encore diffusé l'entrevue. Est-ce que vous l'auriez diffusée? Est-ce que vous auriez parlé de ça aujourd'hui, n'eût été du dépôt de l'action collective?
Ben, en fait, je vous révélerai pas tout un petit secret d'enquête, vous devinez bien, mais vous savez qu'une enquête, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, c'est un dossier auquel on s'intéresse depuis un certain temps. N'oubliez pas que cette action collective vise un très grand nombre de personnes. Il y a plus, je pense que, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'on est à 88 personnes visées par l'action collective. Et Maître Arsenault pourra vous en dire plus, mais je pense qu'il y a 24 actions collectives de ce genre en ce moment au Québec qui visent des congrégations ou des diocèses. C'est énorme. Alors, c'est sûr que c'est un sujet auquel Enquête s'intéresse. Étant donné que les propos qu'elle tient dans cette entrevue coïncident rigoureusement avec ce qui apparaît dans les documents judiciaires aujourd'hui, ça nous permettait de révéler une partie de cette entrevue et de partager quelques extraits avec nos téléspectateurs, avec sa permission bien entendu. Et c'est la décision qu'on a prise étant donné les événements. Encore une fois, quand elle nous a rencontrés, on ne savait pas qu'elle allait s'inscrire à l'action collective. Je ne suis pas sûre qu'elle le savait elle-même à ce moment-là, vraiment. Les choses ont donc évolué et on a un peu suivi, on a pris la balle au bon, quoi.
Très intéressant. Bien, les gens peuvent lire ça sur le site de Radio-Canada et évidemment aussi sur les antennes de Radio-Canada à la télé. Merci beaucoup, Sylvie Fournier.
Merci.
Salut. Sylvie Fournier, journaliste à l'émission Enquête. Je me tourne maintenant vers Maître Alain Arsenault. Il est représentant des demandeurs dans cette action collective déposée contre des employés, contre des prêtres du diocèse de Québec. Maître Arsenault, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, il y a combien de plaignants, plaignantes?
Actuellement, 100 personnes.
Et ça vise
88 prêtres.
Donc, des gens qui sont vivants et aussi décédés, parce que ça remonte jusqu'à 1940, c'est ça?
Oui.
OK, donnez-nous un exemple de ce qui est reproché à des prêtres et employés du diocèse de Québec là, dans l'action collective.
Ah, ça va de tout à tout, là. Des attouchements, des masturbations, des fellations, des pénétrations, souvent contre des enfants. La grande majorité, ils étaient enfants, les victimes, par des prêtres, avec toute la panoplie qu'on trouve dans à peu près toutes les actions collectives, pas en personne, sinon tu vas aller en enfer, des choses semblables, qui parfois ont duré, c'était à une occasion, et dans d'autres cas, c'était pendant une longue période, on parle même d'années. Donc, toute la variété des agressions sexuelles qu'on trouve dans ce genre de dossier-là, ben on le retrouve aussi dans le diocèse de Québec, avec, donc, en plus, des séquelles variables, et dont plusieurs se regroupent, des problèmes de consommation d'alcool, d'anxiété, des idées suicidaires, consommation excessive de drogue, etc., etc. Là, ce qu'on voit dans toutes les agressions sexuelles, tous les dossiers d'agressions sexuelles, on le voit aussi de façon importante dans ce genre de dossier.
Chez ces plaignants-là, là, qui signent l'action collective, Maître Arsenault, est-ce qu'il y en a qui ont alerté le diocèse au fil des années pour dénoncer des abuseurs?
Oui. Un des deux demandeurs a effectivement, lui, qui était jeune, c'est-à-dire le médecin du village a été informé que son frère a été abusé par le curé. Fait que, se doutant, il demande à M. Bégin, Gaétan Bégin, « Toi, as-tu été agressé comme ton frère? » Oui. Il prévient le père et il convient, le médecin et le père, d'aller au diocèse de Québec. M. Bégin, qui est un enfant de 10 ans à l'époque, se fait questionner par un prêtre, sur qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Il raconte tout. Il y a son frère également qui raconte tout ça. Et on envoie le prêtre au repos pendant un an et on l'a fait à la paroisse à côté. Simplement.
Maître Arsenault, là, c'est un classique de l'Église catholique et pas juste au Québec. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en France. Il y a une dénonciation d'un prêtre abuseur aux mains longues. On le déplace.
Oui. On ne veut pas admettre, on ne voulait pas à l'époque, puis on a beaucoup aujourd'hui de difficultés à admettre, oui, ça existait. C'était pas l'exception. C'était pas la règle pour tous les prêtres, mais il y avait un bon 10% de prêtres. À l'époque, en 1960, il y avait 1413 prêtres dans le diocèse de Québec. Ça veut dire 140 prêtres qui abusaient des enfants, puis pas juste une fois par année, là, plusieurs fois, plusieurs enfants, et dans certains cas, à répétition toutes les semaines. Ils veulent pas voir ça. Même encore aujourd'hui, ils font tout pour camoufler ça, pour éteindre ça. Et ce qu'ils font en plus, et ça c'est la dernière stratégie qu'on a essayé de mettre en place hier, c'était pour moi le summum, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Fait que je trouve ça d'un ridicule total. S'ils n'ont pas d'argent, je m'offre à les aider pour trouver l'argent qu'ils ont.
Où vous trouveriez l'argent?
Dans des déplacements de 76 millions.
Le diocèse de Québec a des placements de 76 millions?
Ben oui. Ben oui, c'est à l'Agence de revenus du Canada, toutes les organisations sans but lucratif doivent faire un rapport annuel disant c'est quoi les placements, les revenus, etc., etc. Puis on a tout ça, là. C'est des documents. Bon, un peu, j'ajouterais un petit élément de hasard. J'ai essayé de retrouver le même document que j'avais depuis un certain temps imprimé. Puis là, sur le site de l'Agence de revenus du Canada, il est plus accessible. Ils ont des problèmes. Mais je peux vous dire qu'au 30 décembre 2020, en argent comptant, il y avait 2 millions et demi qui devaient recevoir 6 millions et demi, qui avaient des placements à long terme de 76 216 000 $, qui avaient des terrains d'une valeur de 10 894 000. Puis ça, souvent, c'est beaucoup plus que ça. Que d'autres immobilisations au Canada, 1 282 000. Puis je peux continuer de même. Vous... Que le total de l'actif, c'est 88 700 000.
Maître Arsenault, les 100 plaignants, plaignantes de l'action collective que vous avez déposée en leur nom là, contre le diocèse de Québec, ils demandent combien?
Bon, il faut éclaircir les choses. Lorsqu'on fait une réclamation civile, les avocats fixent un montant maximal. Nous, on a fixé 300 000 $ de dommages moraux, 150 000 $ de dommages matériels, c'est-à-dire de pertes matérielles, pertes bon, de travail, d'opportunités d'emploi, et 150 000 $ de dommages punitifs. Un juge peut donner 300 000 $ de dommages moraux comme il peut donner 200 000. Puis dans le cadre de règlements qu'on a fait par le passé, dans d'autres dossiers, ben les dommages moraux, ça pouvait aller jusqu'à 250 000 $.
C'est individualisé, là. On y va par plaignant-plaignante.
Par plaignant, exactement. Il y a plusieurs façons de prendre ces éléments-là. Mais là, est-ce qu'ils vont vouloir négocier? Ils se sont déjà commis, et j'espère qu'ils ne changeront pas d'avis, à dire qu'au mois de septembre, on commence des négociations. Eh bien, parfait, moi je suis d'accord, mais je pense que la nouvelle d'hier, c'est peut-être un prélude. Là. On va essayer de faire comprendre aux avocats qu'on n'a pas d'argent avec ça. Ben, si c'est le cas, moi je vais leur dire, sortez-moi vos livres, je vais vous aider à en trouver. Pas de problème.
Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Maître Arsenault. Bonne journée.
Bonne journée.
Alain Arsenault est l'avocat qui représente 100 plaignants plaignantes dans le cas d'abus allégués là, contre des employés, contre des prêtres du diocèse de Québec. Maître Arsenault, c'est aussi l'avocat qui représentait là plus de 350 victimes des frères des clercs de Saint-Viateur. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, est en studio. Bonjour, Mme Plante.
Bonjour.
Étiez-vous en vélo pendant l'ondée?
Non, j'étais en auto.
OK, en auto. Électrique, j'espère?
Et comment?
Électrique, j'espère?
Oui, absolument.
OK, parfait. Je veux qu'on parle de cet été pandémique dont on est en train de... cet été post-pandémique.
Oui.
Il me semble que c'était comme... comme si Montréal était revenu à la vie depuis, pour la première fois depuis 2019, disons.
Oui, on a passé quand même un bel été. Là, on va avoir les résultats de Tourisme Montréal qui vont être partagés bientôt. Mais clairement, oui, les touristes étaient au rendez-vous. On voit vraiment là le nombre de festivals, les bars, les restaurants. Ça a été une année, un été très, un bel été. Mais on a aussi eu des enjeux d'un autre ordre également. Là, puis j'imagine qu'on va peut-être en jaser aussi.
Vous parlez des fusillades.
Oui, oui, l'augmentation des crimes avec une arme à feu.
Je vais arriver à ça.
Oui, bien sûr.
Parlant d'été, quand on on pense à l'été normal à Montréal, on pense aussi au défilé de la fierté gay.
Oui.
Écoutez, j'ai été consterné par cette histoire-là. Ouais. Je me demandais, qu'est-ce qui explique, selon vous, que la direction en place à Fierté Montréal est encore là après le fiasco de l'annulation de la parade?
Ben écoutez, j'ai envie de vous dire que c'était assez sérieux pour nous là, pour qu'on décide de s'en mêler, puis de demander le lendemain une rencontre avec les organisateurs, la direction, mais aussi avec le conseil d'administration. Et puis ils avaient pris la décision de faire une enquête interne, mais pour nous, il fallait absolument qu'il y ait un regard externe, puis aussi de regarder l'état des lieux, parce que c'est un événement qui est financé entre autres par les contribuables montréalais. Il y a Québec qui contribue également. Alors, il faut absolument rétablir la confiance. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le message que j'ai porté à l'organisation de Fierté Montréal, c'est faisons cette enquête, mais il faut que vous soyez prêts à entendre les recommandations puis les appliquer. Alors, ça devrait se faire rapidement à la personne de M. Schnum qui a été choisie. Et on va, les décisions vont s'appliquer en fonction de ce qui est mis en lumière.
Ce matin-là, Fierté Montréal a envoyé un tweet pour dire c'est annulé. Puis là, ils ont dit, consultation avec le SPVM. Oui. C'était pas vrai.
En effet.
Est-ce que vous considérez que c'est un mensonge?
Je ne pense pas que c'est un mensonge. Clairement, il y a un manque de communication, mais je vous cacherai pas une chose.
Ça ressemble à un mensonge.
Un mensonge, pour moi, ça serait si ça avait été délibéré. Et je peux pas vous dire à ce moment-ci,
Mais le SPVM a dit que ça n'avait pas été consulté.
Non, en effet, et nous non plus. D'ailleurs, au début, ça semblait être une décision commune, ce qui n'était pas le cas. Mais considérant à quel point ça l'a enflammé la toile, hein, que ce soit que le SPVM ait eu une responsabilité là-dedans, alors que c'était faux, ça m'a énormément inquiété. Et de là, ma décision d'intervenir personnellement dans le dossier.
OK. Je vous amène sur un autre terrain. Vous êtes allé sur le terrain préélectoral. Vous avez fait une liste d'épiceries de vos exigences comme mairesse de la plus grande ville au Québec auprès des partis. Quand vous avez vu la CAQ qui réitère la baisse d'impôts, on va couper les impôts, on sait pas de combien, sachant que les villes, pas juste Montréal, mais les villes demandent une réforme de la fiscalité pour aller chercher plus de sous, pas dépendre des taxes foncières, est-ce que vous avez avalé votre café de travers?
Ben en fait, j'ai entendu le ministre Gérard le dire, alors je m'en allais en onde avec M. Arcan ce matin. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le gouvernement souhaite, ou que les partis souhaitent donner un répit aux Québécois, Québécoises, souhaitent. Mais nous aussi, on veut en donner un répit. Nous aussi, on veut respecter la capacité de payer des Montréalais et des Montréalaises. Puis au final, quand on sait qu'il y a 4,7 milliards de dollars de surplus ou enfin de revenus supplémentaires qui est basé essentiellement sur une bonne relance économique à laquelle Montréal contribue, c'est normal. Puis l'inflation, nous, on veut une équité. On veut pouvoir financer nos projets, nos défis, parce qu'on va parler de la violence armée, c'est un défi. Mais on veut pouvoir avoir les moyens de nos ambitions. Puis honnêtement, je vais vous le dire, je l'ai dit un matin, je suis tannée de quêter. Je suis tannée que ça soit à la pièce. Le gouvernement est au rendez-vous sur plein de dossiers, là. Entendez-moi bien. Mais on peut-tu avoir un plan global puis nous donner qu'il y ait une bonne redistribution des richesses? Puis pour moi, ça passe par un meilleur équilibre fiscal.
Trouvez-vous que vous avez une meilleure écoute de Québec depuis que vous avez été réélu en novembre passé?
Ben, c'est évident que quand la mairesse de Montréal parle de la vision des Montréalais, Montréalaises, c'est basé sur les résultats électoraux de notre élection municipale, effectivement.
Parce que j'ai pas l'impression qu'ils vous écoutent, qu'ils vous prenaient au sérieux tant que ça avant que vous soyez réélu?
Mais je pense j'ai envie de vous dire que plusieurs éléments, ma réélection forte a joué. Mais je pense aussi que le gouvernement, puis je pense que c'est le cas pour tous les partis, puis même peut-être une partie de la population, même au Québec, le fait que Montréal est une leader, qu'on ait pris autant de place aussi rapidement, qu'on soit aussi proactif dans des dossiers comme les changements climatiques, parce qu'on ne peut pas se le cacher. Si le Québec veut atteindre ses cibles en matière de réduction des GES, c'est sur Montréal. C'est Montréal qui va l'aider. C'est la région métropolitaine parce que c'est là que les gains sont les plus importants. Alors, je pense qu'il y a plein d'éléments qui se sont... Une belle conjoncture. On peut dire que les astres sont mieux alignés.
La CAQ est bien positionnée, Mme Plante, pour la prochaine élection. Est-ce que vous espérez secrètement ou pas si secrètement que la CAQ fasse élire des députés, plus de députés à Montréal?
Dans le dernier mandat, les gens disaient « Ah, ça va pas bien travailler ensemble, Projet Montréal puis la CAQ. » On a très bien travaillé ensemble. Il y a plein de dossiers qui ont avancé, puis je pourrais en nommer
plusieurs. Mais ça aiderait d'avoir plus que deux députés montréalais à Québec.
Ben, c'est sûr que la représentation, elle est importante. Là, on va pas se le cacher. C'est-à-dire qui sont les personnes dans le Conseil des ministres au caucus qui font avancer, qui mettent de l'avant les enjeux de Montréal. Et c'est pour ça qu'on a déjà eu cette discussion-là. Moi, ce que je veux pendant l'élection, autant la CAQ, mais les autres partis aussi, là. Oui, les régions, tu sais, sont importantes, on les aime, puis tout est bon. Moi, c'est la seule affaire que je demande, c'est on peut-tu ne pas déshabiller Jean pour habiller Jacques? Tu sais, c'est ça, là.
Okay.
Puis donnons-nous les moyens. On est la métropole culturelle et économique. On mérite d'avoir l'attention puis les moyens nécessaires.
Parlons de fusillade. Je pense qu'on a l'extrait de notre collègue Jérémy Filosa, journaliste sportif, qui habite Montréal-Nord
qui
nous a dit... Pardon? On l'a pas? Non, OK. Jérémy nous a dit hier...
Mais je l'ai entendu.
Bon, vous l'avez entendu. Jérémy nous a dit... Lui, c'est un fier résident de Montréal-Nord.
Absolument.
Et lui et des membres de sa famille songent à peut-être déménager. Écoutez, sort d'un autre été où il y a eu beaucoup de fusillades mortelles. Pas toujours, mais ça crée un sentiment d'insécurité. Écoutez, est-ce que c'est la nouvelle normalité qu'on se tire dessus comme ça à Montréal?
Non. Non, non, non. Moi, j'admettrai jamais ça. Mais hors de question.
Regardez, ça fait deux ans qu'il y a des escouades spécialisées qu'on verse des millions aux policiers. Ça change rien.
Ben, en fait, puis là, ce que Monsieur Filosa a raconté, c'est vrai. J'étais à Montréal-Nord vendredi passé avec une organisation qui travaille avec des jeunes. Puis je veux dire, ils me l'ont dit. Je l'ai entendu de parents, je l'ai entendu de citoyens. Fait que c'est vrai là. Cette crainte-là, cette insécurité-là. Ceci étant dit, on le sait que, de façon générale, l'été, il y a toujours plus d'incidents. Là, on rajoute maintenant, post-pandémie, pendant la pandémie, mais post-pandémie, cette sortie de pandémie où le nombre d'incidents ou de crimes avec des armes a augmenté. Puis c'est pour ça que pour moi, je suis, puis les conversations que j'ai avec le SPVM, c'est que on va y arriver, il faut y arriver. Pour nous, il n'y a pas question que ça devienne une normalité. Là, je peux vous dire le plan qui existe depuis un an, je peux vous parler de trois axes, la prévention, la lutte au crime organisé, la lutte contre les armes. Mon message, c'est que le SPVM est sur le terrain, les enquêtes, ça fonctionne. On vient d'apprendre à 3h30 là, qu'il y a 7 personnes qui ont été arrêtées en lien avec le crime organisé. Mais ça, il y a des éléments qui vont prendre plus de temps. Je dois être honnête aussi. Là.
Quand il y a des fusillades, les policiers ont plusieurs techniques d'enquête là, pour essayer de découvrir qui a tiré. On cogne aux portes des citoyens, par exemple, pour les caméras de surveillance des citoyens. Mm-hmm. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des caméras de surveillance de la ville, mais qu'on n'enregistre rien. Est-ce que c'est vrai?
Et vous, honnêtement, moi, de ma compréhension, quand on met des caméras, c'est pour enregistrer. Ça a l'air drôle
moi,
ce que je dis là.
Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on visionne en temps réel, mais qu'on n'enregistre pas.
Ben, ça me surprend parce qu'entre autres, ce qui s'est passé quand le policier Monsieur Vic a été.
Non, ça c'était les caméras de surveillance du ministère des Transports.
Ben écoutez, laissez-moi regarder, mais de ma connaissance, les caméras, un des enjeux de d'ajouter des caméras, c'est de pouvoir avoir les équipes et tout le pour pouvoir enregistrer le matériel, tu sais, tout l'élément technique derrière. Donc, laissez-moi fouiller, puis je vais vous revenir.
OK.
L'idée, c'est que ça roule, pas juste en temps réel. L'idée, on s'entend, vous et moi, c'est qu'on veut avoir du matériel
pour faire des preuves. Moi, ce que les policiers
me disent,
Mme Plante, c'est que les caméras de surveillance municipales peuvent pas y avoir accès, on n'enregistrerait pas. Et ça les aiderait dans les enquêtes. Je vous dis pas que ça va régler le problème des fusillades.
Non, j'entends, mais c'est un outil de plus.
Évidemment.
Fait que là, je vais vous revenir pour pas la fin de l'émission ou demain matin, pas demain matin, mais demain après-midi.
Est-ce que Montréal est moins sécuritaire qu'il y a 5 ans?
Non. Mais je peux pas dire oui. C'est impossible.
Mais Écoutez, tous les politiciens, tous les chefs de police à qui je pose la question me disent « Non, non, c'est pas vrai ». Mais regardez, les gens de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies, là, ils ont une opinion
mais
pas mal différente.
Je vous dirais pas « Non, non, c'est pas vrai ». Je vous le dis pas sous ce ton-là.
C'est ce que vous
non,
venez
non,
de me
non,
dire.
Mais c'est pas pareil, parce que... s'il y avait pas les ressources, s'il y avait pas la détermination, s'il y avait pas les outils, s'il y avait pas toute les solutions qu'on met en place puis celles qui vont porter fruit, moi je peut-être que je vous dirais oui, mais pour l'instant c'est non.
Entendez-vous que les policiers de la base ont peur de faire leur job des fois, de peur d'être taxés de brutalité policière ou de peur d'être accusés de profilage racial. Est-ce que vous entendez ces bruits-là?
Je vais être honnête avec vous, j'entends de tout. Pour vrai, c'est-à-dire des policiers qui vont me dire moi ça m'inquiète pas, moi je tu sais moi voilà, puis il y en a d'autres qui vont me dire ben oui, tu sais c'est une préoccupation que j'ai. Mais j'ai pas une généralisation. Mais encore une fois je veux dire je suis beaucoup sur le terrain, les équipes qui m'entourent on jase puis j'entends un peu de tout. Donc c'est aussi une réalité des policiers.
OK, en terminant, Denis Coderre, votre ancien adversaire a annoncé des grands plans qui vont être dévoilés demain. Est-ce que
mais posez-vous vraiment cette question, c'est pas est-ce moi que... qui est en élection là. Moi là, c'est fini ça là.
est-ce que vous avez peut-être un scoop pour nous?
Ah non, mais non. Moi je lui souhaite du bonheur. Du bonheur, okay. Une vie épanouie.
Où vous le verriez?
Honnêtement, là, j'ai tellement d'autres choses à m'occuper, puis je suis vraiment là. C'est vraiment la dernière chose à laquelle je pense sur ma longue liste de préoccupations pour notre belle Montréal.
Est-ce que vous vous êtes revus depuis?
Oui, sûrement, mais là, je ne pourrais pas vous
C'est une non, bonne réponse, sûrement. D'accord, merci.
Merci d'être venue nous voir en studio, Madame
merci
Plante.
Merci beaucoup.
Bonne soirée. Valérie Plante, mairesse de Montréal.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Il y aura des élections début octobre et si la CAQ est réélue et est appelée à former de nouveau le gouvernement, ben les caquistes le disent, il y aura des baisses d'impôts pour les Québécois. De quelle forme, on le sait pas, mais on sait que le ministre des Finances, Éric Girard, le dit et le répète, ben il y aura des baisses d'impôts. Le chroniqueur Francis Veil dans la presse aujourd'hui pose une question pertinente, où on va prendre l'argent. Salut Francis.
Bonjour, Patrick.
Donc, écoute, on est en déficit. Il semble que le déficit soit en train de rétrécir. Sauf que, quand même, la question se pose, où la CAQ va-t-elle prendre l'argent? Toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, par exemple, des syndicats qui s'en viennent, puis l'argent ne pousse pas dans les arbres.
Oui, c'est ça. En réalité, il y aura quand même des défis là, qui s'en viennent. Une campagne électorale, puis on sait bien que les promesses, là, il va y avoir une enflure de promesses. Il va y avoir la CAQ qui va arriver avec ses promesses. Mais donc, les autres partis vont inciter la CAQ à répliquer à des promesses soit de baisse d'impôts, soit de nouvelles dépenses, tout ça. Fait que il risque donc un possible surplus qu'on sent venir, là, parce que le déficit est presque à zéro, j'en parlerai, mais bref, autrement dit, que l'espèce de surplus qu'on est en train de se constituer risque d'être pas mal mangé avec cette campagne électorale-là.
OK. Francis, t'en fais la démonstration encore une fois dans ta chronique de ce matin. Au Québec, on est parmi les plus taxés en Occident. Ça vient avec des services, évidemment, mais la marge de manœuvre, on la trouverait où?
Bon, alors donc les plus taxés, je pense qu'on le sait, on les répète, mais je pense qu'il faut quand même le redire là. Tu sais, si on prend par exemple l'impôt sur le revenu, ben l'impôt sur le revenu au Québec là, ça représente 14% à peu près de l'économie, 14,1% l'impôt des revenus des particuliers. Mm-hmm. Ça c'est troisième au monde. Tu sais, il y a le Danemark là qui est vraiment hors marché, il y a l'Islande. Et après ça, il y a le Québec, là. Fait que quand on se compare avec l'Ontario, quand on se compare avec l'Alberta, quand on se compare avec la Suède, avec les États-Unis, limite, on est nettement au-dessus, là. Avec l'Ontario, c'est à peu près 10 milliards de plus. Avec l'Alberta, on paye à peu près en impôt des particuliers 26 milliards de plus. Tu sais, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, là, donc, la justification pour baisser les impôts est là. On peut pas nier là, que le fardeau fiscal est élevé. Oui, on a beaucoup de, en plus de services quand même, mais l'écart demeure imposant. Je pense que pas dépenser plus d'argent, mais l'idée, c'est peut-être mieux dépenser l'argent pour servir des économies pour baisser les impôts. Et c'est justement là qu'est la question de où trouver l'argent. Ben bon, là, il y a 2 milliards dans les rapports préélectoraux parce que le ministère des Finances a déposé un rapport préélectoral. C'est une nouvelle loi qui exige que, bon, un rapport préélectoral soit déposé. Et dans ce rapport-là, il y a comme un espèce de coussin de 2 milliards qui a été mis pour chacune des 5 prochaines années pour s'assurer que, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup d'inflation, l'économie, on ne sait pas trop où ça s'en va, cause des taux d'intérêt augmentent. Donc, on s'est mis un coussin de 2 milliards. Donc, il y a fort à parier que la plupart des partis politiques vont sauter sur ce coussin-là pour financer leurs dépenses. C'est un peu la première partie de ce que je pense que l'argent pourrait venir pour, par exemple, baisser des impôts.
OK. Tu fais une comparaison avec l'Ontario. Tu dis que les Ontariens aussi sont imposés, sont quand même imposés, sauf que s'ils étaient imposés, si on était imposé comme les Ontariens, on paierait l'équivalent de 10 milliards de dollars de moins. Est-ce que les Ontariens, est-ce qu'ils ont autant de services qu'ici au Québec?
C'est ça. Donc, 10 milliards, c'est admettons qu'on appliquerait le même système fiscal ontarien aux Québécois. Là, on enlève le fédéral. Là, le système québécois et ontarien, c'est 10 milliards d'écart. C'est beaucoup d'argent. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes services. Parce à quoi ça revient? Est-ce que tu paies pour la même chose? Bon, ils n'ont pas les mêmes services. Ils n'ont pas de service de garde, bien sûr. Ils n'ont pas de service de garde dans les CPE, par exemple. Et on oublie souvent de parler des Hauts-Québec où nos tarifs d'électricité sont beaucoup plus bas que ceux des Ontariens, où c'est un gros problème là-bas. Sauf que on a plus la qualité des services qu'on fait. On regarde les hôpitaux où il y a des files d'attente. C'est pas vrai que souvent j'entends parler souvent des gens qui m'écrivent de l'Ontario me disent écoutez, on n'attend jamais aussi longtemps dans les hôpitaux qu'on attend ici au Québec. Des fois même on préfère aller à Ottawa qu'en Outaouais. Il y a souvent cette comparaison-là. Donc c'est sûr qu'on fait. Qu'on a plus de services, mais est-ce qu'on a la même qualité de service? Ça, c'est loin d'être certain.
OK. De ce que tu entends du ministre Éric Girard, est-ce qu'on a une idée de à qui la CAQ donnerait des allègements d'impôts?
Bon, la CAQ, comme la plupart des partis, vise tout le temps la fameuse classe moyenne. Bon, comment on la définit? C'est ça la question. Hein? Mmh. On définit la classe moyenne comme ceux qui gagnent 70 000, ceux qui gagnent 100 000, ceux qui gagnent 50 000. Moi, je pense que les ménages qui gagnent moins de 150 000, c'est ce genre de familles-là qui vont être ciblées, là, les couples, les ménages, les familles qui gagnent 150 000 $ et moins, à mon avis, c'est eux qui vont être touchés. C'est une grosse partie de l'électorat de la CAQ, bien sûr, puis c'est pas mal ceux qui payent le plus d'impôts au Québec, là. Donc l'argent serait pris dans le fameux surplus, peut-être dans le fameux fonds des générations dont on se sert pour réduire la dette. Et aussi par la croissance économique qu'on pense qu'il va quand même être pas pire au Québec malgré une possible rancement économique là, qui est causé par les hausses des taux d'intérêt de l'inflation.
OK. À la fin de ta chronique, Francis Veil, là, t'évoques les demandes des syndicats. Il y a des conventions collectives qui vont venir à échéance au début 2023. Ça risque d'être un choc avec le gouvernement là, quand on prend compte de l'inflation.
Alors, il n'y a aucun doute que les syndicats se préparent à une bataille, à mon avis, très importante. Quand tu vois l'inflation qui est à 7%, 8%, c'est très important. Les négociations vont commencer pendant la campagne ou un petit peu après la campagne électorale. Sûrement qu'il va y avoir une question à la campagne électorale. Il y a plusieurs conventions collectives qui ont une chance le 31 mars 2023. Alors, figurez-vous que les hausses de salaire qui vont être demandées, ce ne sera pas 1 ou 2%. Non. On va y aller à du 5, 6, 7%, possiblement. Je n'ai pas les secrets de les syndicats, mais à mon avis, ça va être du 5% par année, peut-être, les demandes. Fait que c'est à risque. Ça risque donc de causer des grincements dedans. Là, c'est les contribuables, bon, en tout cas, je crois, au gouvernement.
OK, Francis, je te sors un peu de ta chronique. Là, je t'amène sur un terrain connexe. Par contre, là, oui. Pour la presse, bon, tu décortiques les finances publiques, tu analyses l'économie. Deux questions. Qu'est-ce qui t'inquiète dans l'économie du Québec présentement, là, au mois d'août 2022, et qu'est-ce qui ne t'inquiète pas?
C'est une bonne question. La pénurie de main-d'œuvre vient vite à l'esprit. Tu sais, c'est quand même un phénomène qui est relativement nouveau au Québec. Là, moi, j'aurais jamais pu m'imaginer qu'on aurait couru après un plombier ou un menuisier ou un limite, là, n'importe qui au restaurant. Il manque des restaurants. Tout ça, j'aurais jamais pensé qu'on aurait eu besoin d'autant de main-d'œuvre. Ça, c'est une inquiétude. Puis là, comment on navigue avec l'immigration dans ce contexte-là? Comment on fait pour arrimer les besoins de la main-d'œuvre et de l'immigration. Ça, c'est une grosse problématique. Ce qui va bien, les finances publiques, bien franchement, les finances publiques, je pense que l'économie roule, mais aussi le, tu sais, on oublie ça, là, mais la quantité de jeunes qui sortent de nos universités, qui sont brillants, sont vifs, ils sont très habiles avec toutes les nouvelles technologies. Moi, je pense que ça, c'est vraiment fantastique, là, la qualité de la formation des jeunes qui sortent actuellement de l'université. Pour moi, c'est quand même une très bonne nouvelle.
Merci, Francis Veil. Merci d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir de te lire.
C'est bon. Merci. Okay.
Francis Veil, chroniqueur à la presse.
Art et spectacle. Voici Catherine Beauchamp. Well, that's all right, mama. That's all right with you. That's all right, oh, mama. Anyway, you do. I'm gonna come on. Oh, hey, oh, 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 hey, I'm gonna come on.
Il y a 45 ans, Elvis Mourey. Est-ce que c'est lui qu'on entendait ou c'est un de ses admirateurs?
Ben, c'est pas la voix d'Elvis, c'est la voix de Martin Fontaine. Et à chaque fois que je l'entends, j'en reviens pas à quel point il est prêt.
Si j'avais pas su qu'on l'avait en entrevue, je serais tombé dans le
piège. Ouais, hein? Même il y a des gens qui ont vu le film de Baz Luhrmann, Elvis, et qui m'ont dit « Hey, Martin Fontaine chante mieux qu'Austin Butler. » On a décidé de l'inviter parce qu'aujourd'hui, il entame son dernier tour de piste dans la peau d'Elvis. Il va rester une série de spectacles jusqu'au mois de décembre, le 31 décembre. Bonjour Martin Fontaine.
Bonjour.
Martin, bon, on a appris que tu étais pour quitter la peau d'Elvis. Tu as passé 27 ans sous les traits d'Elvis avec à peu près 2 heures de maquillage tous les soirs avant chaque représentation. Tu as débuté avec Elvis Story et par la suite, tu as continué l'aventure avec Elvis Experience. Qu'est-ce qui fait que ça arrête? Pourquoi on a pris la décision?
Ben, je ne sais pas vraiment. Tu sais, nous, les artistes, on veut toujours jouer, on est toujours prêts, on aime ça, c'est notre passion. Faudrait probablement poser la question au producteur. Donc, lui, c'est le producteur qui dit « Hey, Marc, on fait une dernière tournée. » Moi, j'entends juste le mot « tournée ». Fait que je dis « OK, on fait une dernière tournée. » Ben, j'y vais. Moi, tu sais, je suis toujours prêt. Donc, la raison, il y en a pas vraiment. C'est peut-être une question de timing, peut-être.
OK.
Le fait que aussi, tu sais, quand on regarde ça logiquement, j'ai 20 ans de plus que le personnage que je personnifie présentement.
Parce qu'Elvis en avait 37 lorsqu'il l'a présenté.
Exactement, dans son Elvis on tour, le jeune Elvis fringant, fougueux et tout ça. Fait que, ben peut-être que c'est ça. Si je veux le garder crédible à un moment donné, puis pas être obligé de prendre mon bain de glace comme Madonna à la fin du show, peut-être que c'est ça, il est temps que j'accroche la télé.
Est-ce que la stepette est moins facile?
Ben la stepette est facile, mais le lendemain est plus dur.
OK. Est-ce que
le lendemain est plus dur, ben c'est ça. Mais quand on est dans le moment présent, on l'oublie, hein, on y pense pas au lendemain. C'est le lendemain que tu dis, mon Dieu, j'aurais pas dû lever si haut, ça.
Écoute, Martin, au départ, là, quand t'as commencé Elvis Story, quand t'as passé l'audition puis qu'on t'a choisi, est-ce que t'étais fan d'Elvis?
Ouais. Non, pas vraiment. Je le connaissais un peu. Et c'est quand j'ai obtenu le rôle que là, je me suis mis à étudier comme un fou parce que je voulais vraiment, moi, raconter l'histoire le mieux possible. C'est-à-dire avec le plus de vérité, avec le plus de faits possible, m'imprégner du personnage afin de le dépeindre le mieux que je pouvais.
Martin Fontaine, ça fait 27 ans que tu personnifies Elvis avec Elvis Experience et je me demandais, c'est un bail 27 ans. Est-ce que tu t'es senti prisonnier du costume d'Elvis?
Au début, peut-être un peu, mais ce qu'il faut se dire, tout le monde, c'est que je m'attendais jamais à ce que ça perdure aussi longtemps. Et ça, je remercie et le producteur et le public de nous avoir supportés comme ça, qui nous supportent encore, parce que c'est le fun. Les gens sont au rendez-vous, ils veulent venir voir le show, puis tu sens qu'ils aiment Elvis aussi, tu sais. Elvis, il y a un engouement, puis on dirait que son âme ou son charisme ne mourra jamais. T'sais. Mais sentir prisonnier, c'était comme quand je faisais à peu près 200 shows par année pendant à peu près 5-10 ans. Là, à un moment donné, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu difficile. Je trouvais ça astreignant. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, si jamais je veux chanter autre chose ou des trucs comme ça, peut-être ça va être plus difficile. Oui, je me suis posé la question, mais ça fait très longtemps parce que j'ai eu la chance de prendre des pauses. J'ai pris 6 ans à un moment donné pour faire des projets personnels. Je me suis fait un album pour le fun. J'ai monté d'autres spectacles et tout ça. Puis aujourd'hui, je suis cabaretier, tu sais, j'ai mon propre cabaret. Alors, ouais. Je fais mes petits
trucs musicaux,
tu sais, dans l'entre Elvis, puis en attendant Elvis, puis l'après Elvis. Donc, mais c'est certain qu'il va toujours rester près de moi. Il va toujours rester mon grand chum. Puis les gens vont toujours associer Martin Fontaine à Elvis Presley.
MC Gilles, une question pour toi.
Oui, ben comme je suis en Mauricie, écoute, bonjour. Félicitations pour ton cabaret. Moi, et je veux
savoir.
Ça va bien. Et je veux savoir, tu sais, à Trois-Rivières, là. Il y a Elvis ouais. Lajoie qui est une légende parce qu'il a refait Graceland en version trifluvienne.
La maison, ouais.
En bâton de popsicle.
Je veux savoir les personnificateurs d'Elvis. Est-ce que vous entendez bien ensemble ou il y a une compétition?
Ben, en fait, je connais Elvis Lajoie parce que bon, on s'est croisé sur certains événements justement à Trois-Rivières. Mais je t'avouerai que je les connais pas vraiment les personnificateurs.
Il n'y a pas un congrès annuel, là. Non,
exactement. Mais ben, où il y en a peut-être, mais moi j'ai jamais fréquenté ça parce que j'avais la chance d'avoir mon pestacle à moi, mes petites affaires, puis j'essayais de le faire un petit peu dans le champ gauche. Tu sais.
Mm-hmm. Dis-moi, t'as rencontré Priscilla Beaulieu Presley, qui était la femme d'Elvis Presley. Comment ça s'était passé cette rencontre-là? Elle était allée à Québec voir le spectacle, ouais. Mais après ça, toi, t'es allé à Memphis.
Oui. Écoute, c'était le plus beau. Les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est quand Priscilla est venue, justement. C'était le 28 juillet 2014, je vais toujours m'en souvenir. Puis ça a été merveilleux comme rencontre. Premièrement, elle était très émue du show qu'elle avait vu. Elle nous avait dit qu'elle avait eu l'impression de revivre sa banquette à Las Vegas. Tu sais. Puis quand elle m'a vu, la première chose qu'elle voulait, c'est qu'on se voit après, tout seul, dans une autre pièce pour pas avoir la réaction des gens alentour, tu sais. Donc, j'ai trouvé ça très délicat de sa part. Puis quand elle m'a vu, elle a dit « Wow! » Elle a dit « Je pensais que tu mesurais 6 pieds. » Je lui ai dit « Ben non, c'est moi le petit roux avec... » Mais elle a dit « Tu sais, c'est tellement fabuleux l'illusion qui se crée. » Elle a dit « Les costumes, on dirait, qui sont grandioses. » Puis elle a dit... Puis j'ai posé la question à Priscilla. J'avais dit « Y a-tu quelque chose que j'ai fait de drôle, qui vous dérange, que j'exagère, qui est trop caricatural? » Elle a dit « Martin, elle dit, suis ton instinct, il est très fort. » Fait que moi, là, ça m'avait donné la petite tape dans le dos pour faire comme, wow, j'ai carte blanche, je peux m'amuser avec le personnage dorénavant. Et à partir de là, elle nous avait amené à Las Vegas. J'ai rencontré sa famille, ses parents, elle est venue plusieurs jours nous voir et tout ça. Fait que non, ça a été des moments fabuleux.
Ben, en tout cas, on te souhaite une belle dernière série de spectacles. Ça va débuter ce soir au Théâtre Saint-Denis. Ça va s'étirer par la suite à Trois-Rivières, au Saguenay et à Québec. Ça va se terminer le 31 décembre. Martin Fontaine, je te souhaite une belle fin d'année, une belle fin de carrière aussi. Et Journée du King.
Belle fin de carrière, belle fin de personnificateur, mettons.
Ouais, exactement.
Oui, la carrière se poursuit.
Oui, c'est ça. Ça continue. Belle fin de carrière plus tard. On se reparlera dans 10 ans.
Les 60 prochaines années.
Bye.
C'est ça. Ben oui, un passionné, ça demeure un passionné.
Salut, Martin. Merci, Martin. Martin Fontaine qui personnifie encore pour quelque temps Elvis Presley. 15:40. Suspicious
minds. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré. Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp. We can go on together with suspicious minds.
Tragiquement, il y a 45 ans, le 16 août 1977, mourait Elvis Presley à l'âge de 42 ans, Catherine, et on a pensé faire appel à notre spécialiste maison de la musique.
Oui, Sylvain Ménard, qu'on a sorti de ses vacances. Bonjour Sylvain.
Salut tout le monde. Ben, vous m'avez pas sorti de mes vacances. Je suis encore dedans, mais j'ai une bonne pensée pour vous.
Quel dévouement, quel dévouement. Sylvain, bon, évidemment, là, tu pourrais nous décortiquer là toute la musique d'Elvis Presley, mais parle-nous du fait que mort, Elvis est devenu plus riche que vivant.
Ben, faut s'entendre. Elvis Presley Enterprise ont fini par faire des profits à un moment donné. Mais au moment de sa mort, Elvis était pas nécessairement en bonne santé financière, même que si ça continuait comme ça, il allait frapper la grande faillite. Faut comprendre que les revenus d'Elvis étaient surtout basés dans le temps sur ses tournées. Or, il était de moins en moins capable de donner des spectacles, il n'était pas en bonne santé à la fin. Ses disques étaient pas nécessairement au top des palmarès, ce qui fait que, et de toute façon, ça c'est une autre histoire, les disques d'Elvis étaient plus nécessairement très payants pour lui. C'est-à-dire l'ancien catalogue, le catalogue qui précédait 1973, parce que on en parlait l'autre fois quand on parlait du colonel Parker, le catalogue d'Elvis avait été revendu à la compagnie RCA. Ce qui fait que Elvis, virtuellement, ne faisait plus d'argent sur tout ce qui avait été embusqué avant 1973. Oui, c'est ça. Pour une somme de 5 millions, ça a l'air que le colonel voulait aller jouer au poker à un moment donné. Donc, il a littéralement vendu le catalogue en se disant, ben, de toute façon, comme toute bonne chose a une fin, Elvis va avoir une fin, mais il ne pensait jamais si bien dire. Ce qui fait qu'il avait largué le catalogue pour moins de 5 millions. Donc, en 1977, quand Elvis est décédé, ses avoirs étaient nettement insuffisants pour le rythme de vie qu'il s'était construit. Et il s'en allait direct vers la faillite.
Direct. C'était quelqu'un de dépensier aussi, hein, qui achetait beaucoup de trucs pour les autres.
C'était hallucinant de voir à quel point l'argent rentrait chez Elvis, mais l'argent sortait aussi vite. Et c'était sur, effectivement, des cochonneries, sur des Cadillacs, des affaires comme ça, sur le fait qu'il avait besoin d'un grand, grand, grand entourage pour s'occuper de lui, pour aller lui acheter des chaussettes au centre d'achat, ça, il prenait une équipe de 20 bodies, tu sais. C'était n'importe quoi. Ce qui fait que c'est amené tout croche, et c'est pas le colonel qui allait faire le ménage là-dedans. Surtout pas, il avait pas le temps, il consacrait ses activités à autre chose. Le père d'Elvis, qui était en principe son agent d'affaires, était quelqu'un qui était sous-scolarisé, sous-éduqué et nettement incompétent là-dedans. Ce qui fait qu'Elvis, à la fin, là, la suite des choses pour Elvis, utile, sauver sa vie, ça aurait pas été beau, hein? Vraiment pas.
Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est décédé? Parce que je sais qu'il y a eu des chicanes légales. Je sais que Priscilla aussi s'en est mêlée. Mais j'imagine, tu me parlais de la cupidité qu'il y a eu au décès d'Elvis.
Ben, faut comprendre que Elvis, ça a été le premier décès dans les grandes vedettes du rock'n'roll où on a pu voir jusqu'où la machine pouvait s'emballer rapidement pour effouérer un citron. Ce qui fait qu'à travers le monde, tous les plans de production des disques RCA ont été mis à contribution. On a arrêté de produire tout ce qu'il y avait à produire et on a remplacé ça par des matrices des albums d'Elvis. Et tu sais, des albums, des films plates, là, les Kissing Cousins, les Aaron Scarron et tout, là, ça s'est mis. Ils sont mis à presser ça partout. Ça se vendait comme des petits pains chauds. Et encore là, comme je le disais tantôt, la succession d'Elvis faisait virtuellement pas d'argent avec ça. Ce qui fait que on a empoché et empoché. À partir de ce moment-là aussi, le nombre d'imitateurs d'Elvis qui se sont mis à faire des spectacles partout à travers le monde, et aussi au Québec, on a eu droit à ça, qui remplissaient des colisées de Québec au complet pour rendre hommage au King, ben je pense pas que la succession d'Elvis faisait beaucoup d'argent là-dessus. toutes les revues, tous les magazines qui ont fait des éditions spéciales sur Elvis, toutes les stations de radio qui ont fait des programmations Elvis 24 heures pendant des jours qui ont suivi son décès, ça a été vraiment le camp d'entraînement de la cupidité lors du décès d'un artiste. Ensuite, on l'a vu avec John Lennon, on l'a revécu aussi avec Michael Jackson, mais Elvis, ça avait été particulièrement odieux. Les vautours se sont lancés, là. C'était des carnassiers. Ça n'avait aucun bon sens.
Sylvain, revenons au phénomène Elvis, OK? Je veux t'entendre. Là, ça fait 45 ans qu'il est mort. Et on en parle encore comme on parle de peu d'artistes au 45e anniversaire de leur mort. Qu'est-ce qui explique ça?
Si c'est pas le plus grand, il fait partie des top grands, ça c'est sûr, de ceux qui ont inspiré les autres par la suite. Malheureusement, c'est pas toujours ces gens-là qui passent le râteau de leur vivant. Et dans le cas d'Elvis, comme dans le cas, tu sais, on va prendre un autre cas, là, très, très, très éloigné, qui peut sembler avoir aucun rapport. Tu prends le peintre Vincent Van Gogh, là. Ben, de son vivant, semble-t-il qu'il n'avait pas vendu une œuvre. Ben, Elvis a vendu des œuvres, mais Van Gogh valait beaucoup plus cher après son décès. Elvis, la même chose lui est arrivée. Il a fini par valoir beaucoup plus cher après son décès. Le legs artistique de ce gars-là, s'il n'y avait pas eu d'Elvis, il n'y aurait pas eu de Beatles. S'il n'y avait pas eu de Beatles, il n'y aurait pas eu ci, il n'y aurait pas eu ça. Ça fait que c'est comme la pointe. C'est la pointe de la flèche, là. C'est quelqu'un qui a été majeur, là.
Sylvain, pourquoi tu dis qu'il n'y aurait pas eu de Beatles sans Elvis?
Ah, parce que John Lennon lui-même le disait, que, tu sais, sans Elvis, les Beatles n'auraient pas existé. Elvis a été la grande inspiration de cette génération d'artistes-là. Les artistes qui sont nés dans les années 40, donc les Beatles, les Stones, puis tout ce monde-là, ont été carrément inspirés par Elvis. Ce qui fait que, oui, ces gens-là se sont beaucoup fiés sur le flair d'Elvis. Comment devenir une vedette, comment performer, tout ça. Ensuite, tu sais, c'est la grande histoire de la culture populaire. C'est-à-dire que c'est par accident que les plus grandes découvertes arrivent. Puis Elvis, en quelque part, culturellement parlant, c'était un accident. Ça ne devait être qu'un feu de paille. Ben, c'est un feu de paille qui brûle encore après 70 ans. C'est quand même pas pire. C'est ça, la culture populaire aussi. C'est quelque chose qu'on ne voit pas venir, puis paf, ça nous frappe.
Mais le fait qu'on en parle encore et le fait que ce soit rentable, tout ce qui concerne les affaires autour d'Elvis Presley, c'est vraiment grâce à son ex-femme, parce que ça aurait pu aussi s'éteindre avec sa mort, mais on a réussi à garder son image et se réapproprier l'image d'Elvis.
Oui, tout à fait. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Priscilla Beaulieu a été très importante là-dedans. Ne serait-ce qu'en prenant conscience, vers la fin des années 70, début des années 80, de la mauvaise posture financière de tout ce qui était l'héritage d'Elvis. L'héritage d'Elvis était sur le point vraiment de basculer dans le rouge, puis pas à peu près. Ce qui fait que Priscilla est arrivée là, justement, avec, en n'ayant plus le père d'Elvis dans les talons, parce qu'il était incompétent, en n'ayant plus le colonel Parker éventuellement parce qu'il se faisait sortir, Elvis a été premièrement déquéténisé, si vous me passez l'expression, c'est redevenu un artiste digne de référence, et ensuite au niveau financier, ils ont fait un puissant ménage autour de ce que devait être Elvis. Ils se sont réappropriés le personnage. Parce que Elvis, c'était du grand n'importe quoi. Il y avait des ententes de produits dérivés qui avaient été faites sous le colonel Parker, qui avait aucun bon sens. Tout ceci a été arrêté quand Priscilla et une bonne équipe d'administrateurs comptables ont pris en charge les affaires de Graceland. Graceland, c'était dans ce quartier-là, là, c'était vraiment, ils vendaient des ballons, Elvis, c'était n'importe quoi. À partir du moment où Priscilla et une équipe compétente de gestion a été mise en place, là, c'est devenu quelque chose de crédible financièrement. Et Elvis, quelques années après sa mort, la succession d'Elvis réglait des plus gros revenus annuels qu'Elvis avait jamais eu toute sa vie.
Sylvain, point de vue musique, on va terminer là-dessus, là. Trouves-tu que la musique d'Elvis a bien vieilli? Par exemple, je vais faire une comparaison. Je trouve que la musique des Beatles a bien vieilli. Ça sortirait aujourd'hui, je pense que ce serait aussi apprécié. Elvis, est-ce que ça a bien traversé le temps?
Oui, ça a bien traversé le temps, mais pas avec la même ampleur. C'est-à-dire que les Beatles, sur tout leur inventaire, sur tout leur répertoire, tu peux peut-être sortir 10% que tu dis, « Ih, ça, je suis pas sûr. » Alors qu'Elvis, à cause de ses films poches, ben ça, ça devient un petit peu noyé là-dedans. Mais les grandes œuvres d'Elvis, en hôtel, je suis concerné, c'est pas du 3A, c'est du 5A avec 5 étoiles. C'est ça, des affaires comme Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel, tout ça, là, ça reste, ça survole. Ça reste au-dessus de nous. Et puis, c'est ce qui a montré le chemin à tous les autres par la suite. Ça fait que c'est pour ça. Et Elvis a été, comme je le disais, puis j'insiste là-dessus, déquétanisé à un moment donné. Les dernières images qu'on avait d'Elvis, c'était un gros monsieur qui n'était pas en forme, qui était malade, qui donnait des spectacles pas particulièrement bons. Puis, à un moment donné, on a été assez brillants collectivement pour faire la part des choses entre quelqu'un qui était malade et quelqu'un qui avait beaucoup contribué dans ses jeunes années.
Mm-hmm. Et c'est la raison aussi pour laquelle on a décidé de retirer les célébrants de mariage à la Elvis à Vegas. Ça a été annoncé cette année, mais c'est une décision qui vient de la succession d'Elvis Presley.
C'est pas une bête de cirque. C'était un grand artiste, puis à part de ça, mine de rien, on semble oublier des fois, mais c'était un être humain aussi.
Merci Sylvain d'être sorti de tes vacances pour venir nous parler d'Elvis.
Ah, j'ai hâte de revenir avec vous autres, par exemple.
Saluera les maritimes de notre part.
À un moment donné, oui, certain.
Tu m'as donné le goût de voir des films poches d'Elvis.
on se fait une soirée popcorn et films poches d'Elvis. Merci Sylvain.
Salut
Sylvain.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.